Bonjour Swazik.
Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous revenez sur les propositions du gouvernement pour combler le déficit budgétaire.
Eh oui Margot, parce que toujours à la recherche de 40 milliards d'euros pour combler le déficit, le gouvernement de François Bayrou multiplie les pistes de nouveaux impôts, sachant que celui-ci doit répondre, selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe d'égalité. Je cite l'article en question. La contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Autrement dit, l'impôt doit être réparti équitablement en fonction des revenus des citoyens. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Alors une fois ce principe rappelé, que propose le gouvernement actuel ? Eh bien récemment, le gouvernement a pris ou envisagé deux mesures que je vous propose de comparer. Tout d'abord, la mise en place d'une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, puisqu'il s'agit de 250 000 euros par an par personne seule et 500 000 si vous êtes en couple, soit quasiment 21 000 euros de revenus mensuels par personne. Alors cette contribution exceptionnelle oblige donc un couple au revenu fiscal de 400 000 euros à verser 4 500 euros de plus que son impôt classique, soit un peu plus de 1% de son revenu annuel. Il faut quand même lui dire qu'il lui reste quand même 395 500 euros. Prenons maintenant la seconde proposition, celle d'Amélie de Montchalin, sur l'abattement des 10% du revenu des retraités. Alors je rappelle quand même que cet abattement a été mis en place en 1978 pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'à la retraite, les revenus baissent, mais également parce que les pensions de retraite sont déclarées par les caisses de retraite et échappent par conséquent à tout risque de sous-déclaration. Bah, tiens, les plus riches profiteraient-ils de niches fiscales pour échapper à l'impôt ? Oh, ne soyons pas de mauvais esprit. Bref, cela permettrait à Bercy de récupérer près de 5 milliards d'euros sur les 40 que le gouvernement cherche à économiser.
Mais quelles seraient alors les conséquences de cette suppression de l'abattement ?
Eh bien, elles seraient doubles. Tout d'abord, des retraités non imposables deviendraient, et d'après le syndicat UNSA Retraités, cela concernerait quand même 500 000 personnes. Alors, par exemple, un retraité qui perçoit une pension de 1500 euros par mois, donc on compare avec nos 21 000 du dessus, hein, sans autre revenu ni réduction, ne paye aujourd'hui pas d'impôt sur le revenu. Eh bien, avec la suppression de l'abattement, il paierait 272 euros, soit 1,5% de son revenu. Deuxième conséquence, les retraités déjà imposables, bien sûr, paieraient davantage. Alors, le magazine spécialisé dans la fiscalité Le Revenu a effectué plusieurs simulations pour des couples de retraités. Il a par exemple calculé qu'un couple percevant 40 000 euros de pension annuelle paye actuellement un impôt sur le revenu de 609 euros. Eh bien, avec l'abattement de 10%, mais sans cet abattement, eh bien le montant qu'il devrait payer serait de 1248 euros, soit plus du double, soit pour 3% de son revenu. On se souvient encore des 1% des plus riches. Autre exemple enfin, un foyer disposant de 65 000 euros de ressources aurait un surcoût fiscal de 1320 euros. C'est donc énorme évidemment, mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Il faut également prendre en compte les effets secondaires de la mesure. Parce qu'en effet, la suppression de l'abattement de 10% impliquerait pour tous une hausse du revenu fiscal de référence. Or, ce dernier sert de critère pour obtenir certaines prestations sociales ou des exonérations sur d'autres impôts, impôts locaux, taxes foncières, aides au logement, etc., etc. Par conséquent, les quelques 500 000 retraités qui deviendraient imposables risqueraient de perdre l'accès à ces dispositifs. Alors enfin, l'UNSA Retraite s'inquiète également du risque pour une partie des retraités de changer de tranche de CSG, cet impôt auquel sont également soumis les retraités, avec trois taux différents en fonction de leur niveau de vie. Mais voyez-vous, le plus étrange, c'est qu'Amélie de Montchalin n'a absolument pas pensé à restaurer l'impôt solidarité sur la fortune, qui pourtant avait rapporté 4,5 milliards d'euros en 2022, donc quasiment autant que la mesure sur l'abattement. De même, la flat tax, qui a fait passer le taux d'imposition sur les dividendes de 45 à 30%, n'a absolument pas été évoquée. Pourtant, entre les dividendes et les rachats d'actions, les groupes du CAC 40 cette année n'ont jamais autant redistribué que cette année. En un an, quasiment 100 milliards d'euros ont été reversés. Et selon la lettre financière de Verminem, soit un montant 60% supérieur à ceux de 2019. Alors, ai-je besoin de préciser qu'en plus, les plus gros distributeurs de dividendes sont également les plus gros pollueurs de la planète, le groupe Total en tête. Et pourtant, là encore, aucun impôt pour destruction de la planète n'a été envisagé. Alors si on en revient à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, on voit bien que quelque chose ne tourne pas rond dans la contribution au bien commun. Et malheureusement, pour plagier notre éternel La Fontaine contemporain de Louis XIV, on pourrait continuer d'affirmer au XXIe siècle que selon que vous serez puissant ou misérable, les impôts vous rendront riche ou pauvre.